Merci d'écouter Inter. Il est 8h. Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, crèche, école, hôpital, attendez-vous à des perturbations aujourd'hui dans les services publics. La journée de grève s'annonce particulièrement suivie dans l'éducation. On verra comment l'accueil des élèves se fera, ou pas d'ailleurs, et comment le gouvernement tente d'éteindre la fronde sociale à l'occasion de l'examen du budget qui débute aujourd'hui. À 8h20, Nicolas, la parole à l'une des oppositions à Emmanuel Macron. Il est l'un des nouveaux visages des socialistes, version 2017. Il est votre invité.
Boris Vallaud, député Nouvelle Gauche, on dit Nouvelle Gauche maintenant, des Landes. Il est l'invité donc d'Inter à 8h20. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, un coup de filet antiterroriste. Derrière les barreaux, deux détenus de la prison de Fresnes préparaient un attentat depuis des mois. Une première médicale grâce à un robot, ça se passe au CHU d'Amiens. Il a pu opérer un petit garçon qui souffrait d'une scoliose grave. À l'étranger, les indépendantistes, le doigt sur le bouton en Catalogne, c'est le jour J pour l'indépendance. Et puis à la fin de ce journal, du cinéma, un film consacré aux émeutes de Détroit dans les années 60. Et puis les Bleus tout près du but. L'équipe de France est à 90 minutes d'une place en Coupe du Monde. Prière de ne pas se mélanger les crampons ce soir face à la Biélorussie. Des écoles et des crèches fermées, des hôpitaux qui tournent au ralenti, des perturbations dans les airs. C'est donc une journée noire ou gris foncé qui s'annonce dans la fonction publique, en particulier dans l'éducation. Le premier syndicat du primaire annonce un taux de grévistes de 44%. Une école sur 10 devrait rester fermée en France. Ajoutez-y les cantines, les personnels périscolaires, vous obtiendrez des parents un peu perdus. Alors dans quel cas le service minimum d'accueil des élèves sera-t-il assuré? Les réponses de Sonia Boran.
Les enseignants grévistes doivent se déclarer 48 heures à l'avance, ce qui laisse le temps de prévenir les parents. Si tous les professeurs font grève, l'école est fermée et à partir de 25% de grévistes, la mairie peut assurer un service minimum d'accueil. Mais toutes les communes ne disposent pas d'un personnel qualifié et suffisant pour s'occuper des enfants. Le SMA ne s'applique pas toujours et il est encore plus difficile à organiser quand les agents territoriaux, les ATSEM, les agents de cantine ou les animateurs sont aussi en grève. Leur représentant syndical à la FSU, Didier Bourgoin, rappelle qu'ils n'ont aucune obligation de se déclarer à l'avance.
On peut, dans la fonction publique territoriale, faire grève même une seule heure, c'est-à-dire faire un débrayage et se déclarer en début de journée, voire même dans la journée. Mais vous imaginez bien que la continuité du service public ou même le secteur dans lequel on travaille, c'est-à-dire les enfants, par exemple dans les écoles maternelles, on ne va pas soutenir le fait que des collègues puissent comme ça quitter leur service. D'ailleurs, ce ne serait pas très sérieux. Donc, on souhaite que les choses soient organisées, soient préparées et surtout que les parents puissent savoir si leur enfant aura ce qu'il faut lorsqu'il viendra à l'école et si c'est pas le cas, bah, à ce moment-là, trouver une solution de garde. Si le taux d'encadrement n'est pas respecté, effectivement, les enfants ne peuvent pas être accueillis.
Pour le périscolaire, le taux d'encadrement est d'un adulte pour 18 enfants à l'école élémentaire et 1 pour 14 à la maternelle.
Et on attend des cortèges de fonctionnaires plutôt fournis. Aujourd'hui, il faut dire que le gouvernement a réussi l'exploit de se mettre à dos tous les syndicats de la fonction publique, ce qui n'était pas arrivé depuis Nicolas Sarkozy en 2007. Et le parallèle ne s'arrête pas là pour Stéphane Sirot. Il est spécialiste des mouvements sociaux.
On a un peu l'impression que se reconstruit en quelque sorte la conjoncture qui avait pu exister à l'époque de Nicolas Sarkozy. On retrouve les mêmes ingrédients qui avaient eux-mêmes produit une unité syndicale de la part des organisations de fonctionnaires. La question qui va se poser ce soir pour les organisations syndicales est de savoir quelle va être la suite. Parce que si ces organisations syndicales souhaitent réellement obtenir sur l'essentiel et sur le fond des reculs de la part du gouvernement, ou en tout cas des compromis, se pose aussi la problématique du front syndical uni. Est-ce que ce front syndical uni pourra le rester? Il est bien évident qu'une simple journée comme celle d'aujourd'hui ne sera pas suffisante.
Stéphane Sirot avec Laurent Kramer. Et alors que les syndicats font donc cortège commun aujourd'hui chez les fonctionnaires, ils ne parviennent pas à faire l'union contre les ordonnances et la réforme du Code du travail. 2 heures de réunion hier soir entre les grandes centrales syndicales pour tenter de trouver une position commune. À la sortie, pas grand-chose. La CGT va repartir en solo. Nouvelle journée de grève le jeudi 19 octobre. C'est la semaine prochaine. Et tout le monde se retrouvera dans 15 jours pour faire le point. Mais d'ici là, le gouvernement, lui, compte bien rectifier le tir et tenter de mettre en sourdine la petite musique qui monte, celle du président des riches, accusé de multiplier les cadeaux fiscaux aux plus aisés. L'examen du budget qui débute aujourd'hui à l'Assemblée sera donc scruté de près. Les députés de la majorité ont obtenu le feu vert de l'Élysée pour envoyer quelques signaux de fumée en taxant les yachts, les bolides et autres lingots d'or, histoire de faire passer la quasi-suppression de l'impôt sur la fortune. Mais surtout, l'exécutif leur demande de mener la bataille de l'opinion pour convaincre les Français que ce budget ne penche pas trop à droite. Manuel Ruffez.
La réforme de l'impôt sur la fortune, c'est 3 milliards 300 millions d'euros qui ne rentreront plus dans les caisses de l'État. Certes, détaille Amélie de Montchalin, la chef de file des députés La République En Marche à la Commission des Finances. Mais rendez-vous compte, ajoute-t-elle immédiatement, qu'avec la baisse de la taxe d'habitation, c'est dès la première année quasiment l'équivalent, 3 milliards d'euros, que nous rendons à 80% des foyers. Et là, ce ne sont pas les riches qui sont concernés, puisqu'au bout du compte, les foyers les plus aisés vont continuer à la payer, cette taxe. Et elle énumère les autres mesures, la hausse de l'allocation adulte handicapé, la hausse du minimum vieillesse, la suppression des cotisations salariales maladie et chômage, la hausse de la prime d'activité. Le député En Marche Éric Alauzet, lui aussi membre de la Commission des Finances, l'affirme. Pour un salarié au SMIC, c'est un gain de 130 euros par mois, soit un 13e mois en fin d'année. C'est du jamais vu depuis plus de 15 ans, soutient Amélie de Montchalin.
Explication signée Manuel Ruffez.
Ira-t-il jusqu'au bout ce soir ou fera-t-il des concessions?
18h, toute l'Espagne aura les yeux braqués vers le Parlement catalan devant lequel son président va mettre fin au suspense. Carles Puigdemont pourrait y proclamer l'indépendance de la région, indépendance immédiate ou effective dans quelques semaines ou quelques mois, ce qui ouvrirait une petite porte au dialogue avec Madrid. Pour les indépendantistes, en tout cas, c'est le grand jour. Mathilde Dehimi est allée le vérifier à Gérone, à une centaine de kilomètres de Barcelone. C'est le fief du leader indépendantiste.
Dans sa librairie catalane, Joan a été dévalisée. Il ne reste presque plus de drapeau indépendantiste, mais Maria, 83 ans, se rabat sur un modèle de 3 mètres de long.
Je vais l'accrocher à mon balcon, c'est incroyable. C'est un rêve depuis mon enfance, un rêve.
Le libraire Joan préfère lui garder la tête froide.
Je pense que ça ne sera pas le jour tant attendu. Je crois qu'il y aura bien une déclaration qui sera très officielle, mais l'indépendance ne sera pas immédiate, d'un claquement de doigts et c'est bon.
Au local de l'ANC, l'organisation citoyenne séparatiste, on prépare l'écran géant qui sera posé devant la mairie. Adam, le coordinateur, ne croit pas à une déclaration qui remettrait l'indépendance à plus tard.
Cette option n'existe pas. Demain, on va proclamer l'indépendance. On va enfin commencer et continuer notre histoire commune parce qu'on ne va rien briser. On va continuer sans aucun doute ce que l'on doit faire car il n'y a pas d'autre issue.
Clara connaît le président Carles Puigdemont depuis 20 ans, quand ils étaient tous deux journalistes, puis à la mairie. L'État espagnol menace de le mettre en prison. Qu'importe, dit-elle, le peuple répondra.
Les habitants de Gérone ne resteront pas silencieux. Ils sortiront dans la rue, pacifiquement, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à présent. On a beaucoup souffert pour en arriver là. Il n'y a pas d'autre sortie possible. On ne peut pas faire un pas en avant, puis 10 pas en arrière.
Le mouvement indépendantiste vient du peuple, de la base, rappelle-t-elle. Arrêter les dirigeants ne changera rien.
Toujours à l'étranger, la Californie en proie à de gigantesques incendies, au moins 30 000 hectares parcourus par les flammes depuis dimanche. 10 personnes sont mortes d'après un dernier bilan. 1 500 habitations ont été détruites et des dizaines de milliers d'habitants sont en cours d'évacuation. Les États-Unis où Donald Trump continue son travail méticuleux de détricotage de l'héritage Obama. Dernier exemple en date, l'abrogation du plan climat lancé par son prédécesseur et qui prévoyait la fermeture des centrales à charbon les plus polluantes du pays.
Inter, 8h08. 22 ans pour l'un, 28 pour l'autre. C'est derrière les barreaux, Marc, qu'il préparait un attentat.
Deux détenus de la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne, viennent d'être mis en examen depuis des mois. Ils tentaient de constituer une cellule djihadiste en recrutant même à l'extérieur de la prison. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Leur mise en examen intervient in extremis puisque l'un des deux hommes devait sortir de prison ce matin.
Ah oui, les juges en charge de ce dossier ne pouvaient plus attendre. Les deux hommes ont terminé avec leur peine de prison, l'un pour braquage, l'autre pour tentative de meurtre. On s'est donc retrouvé il y a 8 jours avec des policiers allant interpeller deux détenus dans leur propre cellule à Fresnes. Arrestation et fouille qui a permis de récupérer des documents. Après 4 jours de garde à vue, les deux suspects sont retournés en prison, en détention provisoire, mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels.
Comment ont-ils été repérés?
Alors tout est parti d'une fouille de cellule il y a 9 mois. Les surveillants découvrent des smartphones remplis de vidéos djihadistes, des SMS explicites et puis les preuves de l'utilisation d'une message cryptée pour communiquer avec un membre de l'État islamique en Syrie ou en Irak, des liens anciens selon nos informations.
Et on dit souvent que les prisons sont un angle mort dans la lutte contre les terroristes. Est-ce que ça signifie que c'est en train de changer, Emmanuel?
Bien, cette affaire démarre en tout cas au même moment que la réforme du renseignement pénitentiaire pour mieux surveiller les détenus, sonorisation des cellules, usage d'IMSI catcher pour écouter les téléphones, savoir qui appelle qui en récupérant au moins les fadettes. Cela a permis aux enquêteurs de comprendre que les deux suspects cherchaient non seulement à recruter leur cellule terroriste à Fresnes, mais qu'ils tentaient aussi de convaincre d'autres détenus dans d'autres prisons de passer à l'acte une fois sortis, avec apparemment l'idée de se se financer en braquant par exemple une bijouterie. De sources judiciaires, les projets d'attentat n'étaient pas complètement définis, même s'il était question dans certaines conversations captées de tuer à nouveau des policiers ou des gardiens de prison.
Merci Emmanuel Leclerc. Les IMSI catchers, ce sont ces petits boîtiers qui permettent d'aspirer en quelque sorte les données des appareils informatiques alentour. Le risque terroriste encore, mais cette fois dans les centrales nucléaires, l'ONG Greenpeace a mandaté 7 experts internationaux pour tester la sécurité du parc français en cas d'attaque. Résultat pas vraiment rassurant à lire ce matin dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Si les réacteurs sont plutôt bien protégés, ce n'est pas le cas des piscines de refroidissement, talon d'Achille du nucléaire. D'après les experts, il faudrait au moins 140 milliards d'euros pour les sécuriser. Enfin, vrai douanier et vrai ripou également, deux ex-fonctionnaires de la police aux frontières comparaîtront aux assises pour trafic de cocaïne en poste à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ils ont reconnu avoir pris part à un vaste trafic de drogue en fermant les yeux lors de certains contrôles. En échange, ils touchaient 40 000 euros à chaque passage de drogue.
Et c'est une première mondiale qu'on doit à un robot.
Oui, une équipe du CHU d'Amiens vient d'opérer avec succès à un petit garçon de 6 ans victime d'une grave scoliose. C'est en fait un bras robotisé qui a posé les vis dans son bassin. Après des mois d'entraînement, Anne Tréguer, l'opération s'est parfaitement déroulée.
Un millimètre de marge d'erreur seulement, comme nous l'explique le professeur François de Roussin à l'origine de cette première mondiale.
On a un couloir de 8 mm avec de part et d'autre le canal rachidien et les trous où sortent les racines nerveuses. Et on doit mettre une vis de 7 mm de diamètre.
Pour la première fois, les médecins ont donc simulé leurs gestes sur un mannequin semblable au dos du jeune garçon et qui contenait une impression 3D de sa colonne vertébrale. Le professeur Richard Gouron, chef du service, et Christine Amirati, responsable du centre de simulation au CHU d'Amiens, reproduisent pour nous l'acte réalisé.
Pas de mauvaise surprise, le jour de l'intervention, vous avez la scoliose de l'enfant. Il est clair que la simulation personnalisée dédiée aux malades concernés est indispensable.
Et c'est en cela que c'était une première aussi, c'est-à-dire qu'on a pu personnaliser complètement ce geste qu'on entend continuer.
En chirurgien, on apprend sur des colonnes vertébrales droites d'adultes, jamais sur la même colonne vertébrale que celle qui va nous être amenée au bloc opératoire.
L'opération est donc un succès. Le petit Louis peut s'asseoir depuis seulement 15 jours et ça, c'est une grande victoire. Il respire aussi beaucoup mieux et surtout, il sourit. L'ultime récompense pour le docteur Michel Lefranc, neurochirurgien.
Le patient, il s'en moque de la longueur d'un chiffre, d'un angle. Ce qu'il a besoin, c'est d'être mieux. Et ça, ça se voit par le sourire.
Quatre jeunes enfants vont aussi pouvoir bénéficier de ce nouveau type de chirurgie dans les tout prochains mois.
Pas le moment de flancher, ce serait dommage. L'équipe de France de foot est à une marche seulement d'une qualification pour la Coupe du Monde en Russie l'an prochain. Ce serait la sixième de suite, mais il reste un obstacle. C'est la Biélorussie qu'elle accueille ce soir au Stade de France. Une victoire amènerait directement les Bleus en Russie et avec la manière Sébastien Hazard, ce serait forcément encore mieux.
Et si en football, l'important contre toute attente, ce n'était pas seulement les 3 points. Les Bleus en sont conscients, ils seraient bien inspirés de rajouter une petite pointe de séduction dans leur jeu. Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, le reconnaît à demi-mot.
Le premier objectif, c'est de gagner. Après, si on peut rajouter la manière, il faut le faire. Si on veut durer sur le moyen terme et le long terme, il faut la manière.
Un style, du spectacle, plus de maîtrise. Surtout, après la rencontre samedi soir, Hugo Lloris s'évoquait lui-même une deuxième mi-temps médiocre. Parfois, 3 occasions suffisent pour marquer 3 buts, temporise le sélectionneur de l'équipe de France. Mais Didier Deschamps assure ne pas se voiler la face.
On maîtrise pas tout. C'est pas en claquant des doigts que on arrive à avoir l'expérience internationale. On n'est pas les plus beaux, les meilleurs. J'ai des joueurs qui ont énormément de qualité. Il faut les associer, il faut qu'elles deviennent complémentaires. Et pour tous ceux qui ont joué ce match-là, ça va leur servir.
Référence à ce match en Bulgarie, c'est vrai à Sofia, 4 joueurs tricolores seulement comptaient au coup d'envoi plus de 20 sélections. C'est vrai aussi qu'après le festival offensif contre les Pays-Bas fin août, plus personne ne parlait de manque de fond de jeu. Mais à une marche de la Russie, les Bleus semblent quand même un peu piétinés.
France-Biélorussie ce soir, 20h45. Pour se qualifier, les Bleus doivent faire au moins aussi bien que leurs poursuivants, les Suédois qui jouent aux Pays-Bas. Si ça ne passe pas ce soir, il faudra disputer un barrage d'ici à la fin de l'année. On termine au cinéma avec le dernier film de la réalisatrice américaine Catherine Bigelow, la seule femme à avoir obtenu l'Oscar du meilleur film. C'était pour Des mineurs. Demain, c'est pour son film Détroit qu'elle revient à l'affiche, plongée dans les émeutes raciales qui avaient touché cette ville en 1967, un film Eva Bettan qui résonne bien sûr avec l'actualité récente aux États-Unis.
Une descente de police dans un club fréquenté par des Noirs et les émeutes débutent. D'abord, c'est un film de groupe et puis des personnages se détachent, de jeunes musiciens noirs qui vont se réfugier dans un hôtel. D'une certaine manière, manière, Catherine Bigelow utilise la stratégie du cheval de Troie. Réaliser un excellent film mêlant action et suspense pour y nicher un message politique implacable. Catherine Bigelow.
Je me sers des films de manière stratégique pour véhiculer des informations, en espérant que cela déclenchera une dynamique dans la société. En ce sens, oui, c'est très politique. Je trouve important de parler d'injustice. Le côté grand spectacle est un aspect du film, mais ce n'est pas assez. Nous avons une conscience politique. Ne rien faire n'est pas une option. Alors j'utilise le médium dont je dispose.
Le cœur du film va être une nuit d'horreur quasiment en temps réel que des policiers blancs vont faire vivre à des noirs dans cet hôtel. Le cinéma de Catherine Bigelow s'adresse à nos tripes. Sentir pour ensuite comprendre. Dans un double mouvement, elle montre l'humanité des victimes et le processus de déshumanisation en jeu dans le racisme. Voilà pourquoi le film de Catherine Bigelow est universel et hélas actuel.
Eva Bétan, Catherine Bigelow, que vous entendrez plus longuement ce soir dans Un jour dans le monde avec Fabienne Sintès à partir de 18h15. Et elle est passionnante, me dit Eva dans l'oreillette.
Merci Marc Fauvel.